Nous venons d'entendre Kolia lire un texte que nous connaissons, je pense, assez bien. Nous l'avons écouté à plusieurs reprises. Il a été sûrement au centre de plein de sermons et de messages à tirer. Il y en a plusieurs. Mais avant de se pencher sur le texte, j'aimerais vous proposer cet exercice d'imagination. Alors, pour les internautes, ces deux images seront peut-être un peu déjà connues, mais voilà, je vous demande alors de les récupérer si vous les avez déjà vues. Si vous les avez pas vues, alors tissez un peu cette image avec votre imagination, avec moi. La première, c'est celle d'un enfant, un petit enfant de 5 ans à peu près, au Japon. Cet enfant a des shorts noirs, un t-shirt blanc, il est en tenue de sport et il est dans la salle de sport de son école. On voit ses parents assis, disons les parents assis et de dos par rapport à la caméra. L'enfant qui est au début d'un couloir et au-delà du couloir, d'autres enfants habillés comme lui, déjà assis. Et les enfants sont en train de le soutenir, de soutenir leur ami, aussi bien que les parents de l'autre côté, parce que le petit, il est censé courir tout le long de ce couloir et à la fin sauter pour surmonter un obstacle. C'est une preuve de gym pour conclure l'année, la fête de l'école, la fête du sport, peu importe. Un scénario festif, un scénario amusant. Et bien, vous avez ce petit qui est là, tout concentré, qui entend la voix de l'instructeur, qui à un moment donné dit de partir. Alors, il part, il commence à courir vite, jusqu'à ce qu'il arrive à l'obstacle. Il essaye de le surmonter et il n'y parvient pas. Normal, une scène normale. Ça arrive de ne pas réussir à la première tentative. Alors l'enfant retourne sur ses pas, encouragé, toujours soutenu par ses amis. Les parents sont là, ils battent des mains, ils encouragent. Et encore une fois, l'entraîneur dit « Maintenant !» Alors l'enfant part, il court, il arrive juste devant l'obstacle, il saute. Et il n'arrive toujours pas à surmonter l'obstacle. L'enfant commence à être dessus, clairement. Mais c'est normal. Ne pas réussir au deuxième coup, c'est toujours quelque chose qui arrive souvent. L'enfant retrouve sa place pour commencer l'exercice à nouveau. Il attend le signal. Le signal arrive, il court. Mais au troisième essai, il n'arrive toujours pas à surmonter l'obstacle. Alors là, ça devient un peu plus gênant. Mais quand, à la quatrième tentative, il n'arrive toujours pas à surmonter l'obstacle, et là, les grands aussi commencent à se sentir gênés. On prouve de la peine pour cet enfant qui n'arrive pas à surmonter son obstacle. On voit, même s'il parle dans cette vidéo en japonais, donc moi je ne connais pas le japonais, je ne comprends pas un mot, mais le langage du corps de cet enfant est très, très parlant. Même si on ne voit pas exactement son visage, l'expression qu'il a sur son visage, on comprend à la façon dans laquelle il marche qu'il est très dessus. Alors dans ce moment qui est un peu gênant, où personne ne sait pas quoi faire, où les grands sont un peu pris par surprise, eh bien les petits commencent à descendre de là où ils sont assis et à faire un cercle autour de cet enfant. Comme des papillons, ils arrivent en courant autour de leur compagnon, pour le soutenir. Et comme on voit parfois dans les films, tous ces petits bouts de chou, ils forment un cercle avec des bras comme ça, l'un sur l'épaule de l'autre. Et ils se serrent, et ils commencent à s'encourager. Ils disent des mots qu'on ne comprend pas parce que c'est du japonais, mais ils se soutiennent. Et ils crient fort, juste avant de quitter le centre de la piste pour retourner à leur place. Alors vous voyez tout de suite ce petit qui change d'attitude. Son langage du corps recommunique quelque chose de positif. Il est redressé, il est plein de courage, plein de motivation. Il est là, il attend, il a presque du mal à attendre que le signal arrive. Et le signal arrive, il commence à courir. Il court. Et avec le soutien de ses amis, eh ben, il saute et il arrive à surmonter l'obstacle. Et là, c'est la fête. C'est les parents, les enfants qui battent des mains et tout le monde est content. Je vous demande de prendre cette image et de la garder dans votre esprit. Il y en a une autre que j'aimerais prendre. Des arbres verts. Beaucoup d'arbres, grands, verts, splendides. Vous descendez sur cette petite forêt, et vous voyez qu'il y a encore d'autres plantes, des oiseaux, des animaux. Ce n'est pas une grande forêt, 32 hectares, ce n'est pas vraiment très grand. Il y en a de plus grands ici en Europe, pour ne pas parler du Brésil ou de l'Amérique du Nord, l'Afrique. Mais cette forêt a quelque chose de spécial. Elle n'a pas été toujours là. Elle a été plantée par quelqu'un. Et pas par des hommes, mais par un seul homme. Cette forêt existe vraiment au sud de l'Inde. Elle a été plantée au début des années 80 par M. Karem Abdul, un activiste environnementaliste qui, contre tout ce que les gens pouvaient dire, a décidé d'aller planter sa graine dans un sol sèche et aride, pardon, et qui a été arrosé toutes ses graines pour qu'un jour, là où il y avait un désert, il puisse y avoir une forêt verte, vivante, qui a eu un impact aussi sur l'écosystème local, parce que cette forêt a ramené de la pluie, a ramené des espèces, des animaux, et qui a été finalement une bénédiction, pas juste pour la personne qui l'a plantée, mais pour toute la communauté qui vit dans cette région. Voilà, deux images différentes. On va voir après quel est le fil rouge qui les lie. Je vous invite à prendre maintenant le chapitre 5 dans la lettre de Luc, dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 5, nous allons lire ensemble les versets de 17 à 26. Luc chapitre 5. Et pendant que vous cherchez le chapitre 5, petite note de contexte, Colia a lu tout à l'heure dans Matthieu la même histoire que nous allons lire dans Luc chapitre 5. Versets 17 à 26, qui est aussi raconté par Marc au chapitre 2. Nous allons prendre la version de Luc parmi les synoptiques, ce récit des synoptiques, parce qu'elle est, à mon avis, la plus complète. Et nous allons découvrir maintenant Luc chapitre 5, versets de 17 à 26. Le texte nous dit « Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. » Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à ratissonner et à dire « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes ? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus connaissait leurs pensées, prit la parole et leur dit « Quelles pensées avez-vous dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé de dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche ?» Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dis-lui au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, « Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. » Voici une histoire qui a beaucoup de leçons à nous apprendre. Je le disais tout à l'heure, vous avez peut-être déjà entendu à maintes reprises prêcher sur ce texte. Nous apprenons des leçons comme le fait que Jésus, le Fils de Dieu, lit les cœurs. Il lit les cœurs des pharisiens comme il lit le nôtre. Nous apprenons d'autres leçons comme la corrélation qu'il y a entre le péché et la guérison, entre le pardon, plutôt, pardon, et la guérison. Nous apprenons des leçons comme la dureté du cœur de l'homme. Qu'est-ce que le cœur de l'homme peut être serré et dur, impénétrable? Et nous apprenons aussi que Dieu, que Jésus, le Fils de Dieu, a autorité sur tout type de mal. Voici juste quelques exemples des leçons que nous pouvons extraire de ce texte. Et il y en aurait beaucoup d'autres. Mais ce ne sont pas les leçons sur lesquelles j'aimerais qu'on se concentre ce matin. Parce que je trouve qu'il y a un personnage dans cette histoire qui est un peu invisible. Ce personnage, c'est lequel, d'après vous? Comment? L'équipe? Exactement, cette équipe, c'est un peu le personnage oublié. Matthieu ne les nomme pas. Marc et Luc, un peu en passant, mais il apparaît de façon claire quand on lit le texte dans les trois évangiles que le centre de l'attention de ceux qui sont en train de raconter cette histoire, c'est un autre. Ça serait plutôt si on devait chercher la leçon à tirer de ce texte, ça serait voici cette corrélation que Jésus tisse entre le pardon des péchés et la guérison du mal qui nous touche. Et les trois, ils courent dans leur récit vers ce point central de l'histoire. Mais il y a plus que ça dans cette histoire. Il y a une équipe, justement. Il y a une équipe de personnes qui sont peut-être les héros humains de cette histoire, après Jésus. Mais même si l'histoire est racontée, même si leur rôle, plutôt, dans l'histoire est raconté de façon rapide, ce n'est pas rapide l'action de ces hommes dans cette histoire. Imaginez toujours de monter sur un toit après avoir fait une analyse de la situation, pour se rendre compte que Jésus est à l'intérieur. Il faut rejoindre Jésus, il faut arriver à Jésus, il faut pouvoir amener cet homme qui est bloqué, qui est paralytique, au pied de Jésus, mais il y a tellement de monde qu'alors il faut monter sur le toit. Donc, le temps d'essayer de rentrer par une porte, non, ça marche pas. Par une fenêtre, non, ça marche toujours pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Réfléchir, cogiter, on va monter sur le toit. Est-ce que vous avez déjà pris quelqu'un à poids mort pour l'amener sur un toit? Ce n'est pas évident. Ce n'est pas si facile, ça ne se fait pas comme ça. Alors ces hommes, non seulement ont dû prendre le temps de monter sur le toit, avec des efforts supposément, mais aussi d'ouvrir un trou dans le toit. Certaines traductions vous diront aussi qu'ils ont fait faire de l'espace entre les tuiles. Alors moi, quand j'ai lu la première fois ce verset, je me disais, bon, ok, peut-être que ouvrir un trou dans un toit, en Galilée à l'époque, ça devait pas être si difficile que ça. Eh ben non, le toit c'était pas un paille, il y avait des tuiles. Donc encore un effort, un élément qui nous fait rendre compte que ça n'a pas été fait avec un clin d'œil, ce que ces hommes ont fait. Et non seulement ils ouvrent un trou, mais ils ouvrent un trou dans ce toit juste au point où Jésus se trouve. Pas évident. Il fallait vraiment être motivé pour y arriver. Le texte ne dit pas qui ces gens sont. Mais il y a quelqu'un qui définit de façon indirecte ces personnes. Et c'est Jésus, au verset 20. Quand il dit, voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Voyant leur foi. Qui sont ces hommes qui ont cette foi si solide pour tout faire, pour ne s'arrêter devant personne, pour amener ce paralytique devant Jésus? Est-ce qu'on pourrait imaginer que ces hommes sont ses amis? Peut-être. Des gens qui sont disposés à ne pas s'arrêter devant aucun obstacle pour arriver jusqu'à leur but. Et vous savez, cette histoire se passe au sein du peuple d'Israël. Un peuple dont les chefs, mais le peuple aussi en soi, se sont toujours vantés d'être le peuple de Dieu. N'est-ce pas? Et pourtant, les gens qui étaient là, qui ont assisté à cette scène, connaissaient probablement quelque chose qui se passait ailleurs dans leur pays. Le texte qu'on a lu de Luc nous dit que les pharisiens et les docteurs de la loi venaient de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Donc il y avait même à cet événement des gens de Jérusalem. Un autre texte dans la Bible, que nous n'allons pas lire pour une question de temps, mais que vous connaissez sûrement, Jean chapitre 5, les versets de 1 à 15, nous parle d'une autre expérience que Jésus fait, toujours liée à une guérison miraculeuse, toujours liée à un enseignement de l'autre côté que Jésus veut donner, cette fois sur la possibilité de faire le bien pendant le jour du sabbat. Vous avez sûrement entendu parler de la piscine de Bethesda, n'est-ce pas? La piscine de Bethesda, un lieu un peu mystique, on pourrait dire, au sein du peuple d'Israël. Une piscine à l'intérieur duquel, de temps à autre, on ne sait pas avec quelle régularité, un ange descendait pour faire bouger les eaux au moment où les malades qui étaient là pouvaient avoir une seule chance d'être sauvé. Il devait rentrer dans la piscine et il devait le faire vite. Alors ces gens-là n'étaient pas en coopération, ils étaient en concurrence. Parce que le premier seulement qui pouvait rentrer avait la possibilité d'être guéri. Et les gens qui étaient là, imaginez, ne savaient pas à quel moment l'ange serait descendu. Il n'y avait pas de signe, le texte ne le dit pas. Donc on peut imaginer que comme cet homme qui est guéri, qui était là depuis 38 ans, nous dit le texte, 38 ans à attendre qu'il puisse arriver tout seul. Alors qu'il explique à Jésus, quand j'essaye de rentrer dans la piscine, il y a quelqu'un d'autre qui est aidé et qui arrive à rentrer. Quelqu'un arrive avant moi. Alors peut-être, oui, il y avait des gens qui étaient accompagnés par leur famille. Oui, peut-être que d'autres étaient accompagnés par leurs amis. Ou peut-être que d'autres, comme on fait aujourd'hui, étaient assistés par des gens qu'on payait. Nous avons des gens qui s'occupent de nos parents âgés dans des maisons de repos ou de personnes qui ont des difficultés à bouger tout seul ou qui ont des handicaps très graves. Et c'est normal, c'est tout à fait normal. Mais le texte nous dit quelque chose, peut-être là. Mettre ces deux textes, pour moi, l'un à côté de l'autre, nous permet de voir que Bethesda devient un peu le symbole du salut via les efforts individuels. Alors que Capernaum, parce que Marc nous dit que ce miracle dont nous avons lu ce matin dans le livre de Luc se passe à Capernaum, devient le symbole du salut via les efforts collectifs. Un salut qui est toujours réalisé par Jésus, toujours par un élément divin, mais la façon d'y arriver est différente. Revenons à nos deux images maintenant. Karen Abdul, un exemple merveilleux de comment l'être humain peut réaliser le mandat que Dieu lui a donné de s'occuper de cette planète. Un homme qui a planté tout seul, contre tous ceux qui ont parlé de lui, mal une forêt. Vous trouverez dans le net beaucoup d'histoires sur Karen Abdul. Je ne sais pas combien de ces histoires sont vraies ou inspirées, mais de toute façon, cet homme a été fortement critiqué par les gens de la région. Il disait, mais qu'est-ce que tu vas perdre ton temps? Tu ne vois pas que la terre est aride, que tout est mort, tu n'auras jamais ce que tu essayes de faire. Mais Karen Abdul, tout seul, a réussi à avoir un résultat. L'exemple, je ne le cite pas pour vous inciter à penser qu'on peut très bien faire tout seul. Évidemment, on peut très bien faire tout seul quand personne d'autre veut nous aider. Et quand on sait qu'on fait la bonne chose, oui, on peut très bien faire tout seul parce qu'on n'est jamais seul, comme Maud a rappelé ce matin aux enfants avec l'histoire. Mais je vous cite cet exemple pour vous faire penser à quelque chose. C'est-à-dire, si Karen Abdul a réussi tout seul à planter une forêt de 32 hectares avec plus de 300 espèces d'arbres qui abritent maintenant je ne sais plus combien d'espèces d'animaux, alors qu'est-ce que nous pouvons faire tous ensemble? Parfois, nous nous sentons comme ce petit garçon japonais, face à nos problèmes, découragé, incapable de surmonter l'obstacle. Et c'est décourageant, très décourageant d'essayer une fois, deux fois, trois fois, maintes fois, et de continuer de se planter. Ça me fait penser, chers frères et sœurs, qu'ici on s'appelle frères et sœurs. Est-ce que nous avons vraiment conscience du poids et du sens qu'il y a derrière ce mot? Frères, sœurs. qu'est-ce qu'il y a derrière ces deux mots pour nous. Je sais que parmi vous, il y aura sûrement des gens qui ont eu des mauvaises expériences avec la famille. Et donc l'image du frère ou de la sœur, ça ne nous parle pas du tout. On préfère plutôt l'ami. Eh bien, peu importe si on parle d'ami ou de frère ou de sœur, ce que j'essaye de vous dire, c'est on est censé être comment en tant qu'Église. L'image du frère ou de la sœur, ça nous fait penser à un lien, un type de lien qui est tellement profond, tellement intime, tellement naturel, qu'il est très difficile à dissoudre. Et celui de l'amitié, il communique la même chose, comme Maud l'a dit. Quand la ficelle était toute seule, elle pouvait facilement être brisée. Mais quand elle était tressée à d'autres ficelles, allez-y. Pas évident. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que vous avez entendu tout à l'heure Colia lire une liste. Cette liste a été votée par vous tous. Notre Église va bientôt affronter un moment de travail intense. Nous allons rentrer dans une phase de nomination. Et ce n'est pas juste quelque chose qu'il faut faire parce qu'il faut assurer la gestion courante. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire juste parce qu'il faut remplir une place. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire parce qu'on a toujours fait comme ça. C'est quelque chose qu'il faut faire parce que cela nous permet de tisser nos liens, de travailler ensemble, d'avoir un impact ici, à Woluwe, à Bruxelles, en Belgique, avec nos familles, nos amis, ceux qui nous entourent. Certainement, le travail parfois est dur. Parfois, il faut grimper quand on travaille avec les autres. Parfois, il faut monter jusqu'au toit. Parfois, il faut arracher des tuiles. Mais ce travail a tout son sens parce qu'on a un but, arriver à Jésus et y arriver ensemble. Peu importe si vous seriez d'ici 6 mois ou moins nommé à la tête d'un ministère, en tant que collaborateur dans un ministère, ou pas du tout, parce que le service ne se fait pas uniquement par le ministère. Aussi, et je vous encourage à ne pas répondre de vous-même aux questions qui vous seront posées, mais à répondre uniquement parce que le Seigneur vous aura dicté la réponse. Mais nous pouvons, avec n'importe quel degré d'engagement, participer à la vie de cette Église. Voilà, c'est avec ce message d'espoir, d'encouragement que je vous laisse ce matin et je vous dis que le Seigneur vous bénisse. Amen.